Métaphysique, Père Philippe, 24 novembre 1982, Rimont.
Un instant, je le répète pour les autres, que le discours, le logos qui exprime notre désir de recherche de la vérité n'est jamais adéquat à ce désir de la vérité. Alors, comprenons que ce logos s'exprime, ce discours s'exprime fatalement au niveau même où nous sommes. Je dis ça, c'est parce que ça aide beaucoup à comprendre certaines choses. Et alors, ça évite certains équivoques. Hein. Je vais faire un petit dessin, un petit graphique. Ça, c'est où nous sommes avec nos pieds. Hein. À Rimont. On ne voit pas quelle altitude. Mais je ne sais pas d'importance. Hein. On est tous à la même altitude. Et puis, nous sommes dans une recherche de vérité. Et il y en a un autre hein, qui part du même point, qui est d'une recherche de vérité. Ça peut arriver, que voulez-vous, hein, c'est difficile. Puis il y en a un autre. Une recherche de vérité, vous comprenez, bon. Chacun d'entre nous, nous exprimons ce que nous cherchons. Celui qui est arrivé ici, il a son logos. Il a son discours. Celui qui est arrivé ici, il a son discours. Mais comme il a monté très très vite, son discours est plus abrupt. C'est forcé, notre discours correspond à ce que nous sommes. Celui-ci, il a son discours. C'est bien évident. Ils sont quoi, plusieurs à ce niveau-là, vous voyez. Et comme ils viennent à des lieux différents, leur discours. Alors, voyez, les discussions qui se font au niveau du logos. Attention, ce n'est pas ça que nous devons faire. Je veux dire, je ne comprends pas très bien. Je dois chercher. Parce que ici, la vérité, ce n'est pas ça. Ici, je parle de la vérité philosophique. Au-delà de cette vérité philosophique, il y a la vérité que nous atteignons par la foi. Immédiatement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la foi, elle est ici. La foi, cet immense avantage, que la voix, le Verbe s'est fait chair. Donc, il a touché ce sol sur lequel nous sommes. Pas la vérité philosophique, elle ne s'est pas fait chair. Non, la vérité philosophique, elle implique une recherche tout le temps. Et quand elle est très élevée, elle a bien montré un petit peu qu'elle s'est élevée assez haut, n'est-ce pas? Alors elle a un langage abstrait. Le logos philosophique a toujours un langage abstrait. Si vous croyez qu'il n'a pas un langage abstrait, vous faites erreur. Tandis que le Verbe s'est fait chair, et le Verbe il est beaucoup plus élevé que cette vérité-là. Mais il peut descendre beaucoup plus bas. Et c'est pour ça qu'il a un langage symbolique. Parce que le Verbe devenu chair ne peut avoir qu'un langage symbolique. Il ne s'oppose pas à la vérité philosophique. Il ne s'oppose pas du tout. Il l'enveloppe. Il l'enveloppe complètement. Tout le temps. Alors n'opposons pas le symbolisme de l'écriture et notre recherche philosophique. N'opposons pas, disons de temps en temps, je ne vois pas très bien comment ça se correspond. C'est tout à fait normal. Mais dès que nous opposons, ça prouve que nous avons oublié que nous ne sommes pas dans les mêmes perspectives. La foi et puis cette recherche du nous. Pas d'opposition, l'intelligence. Je vais mieux dire en grec, parce que comme ça nous sommes tous au même niveau, puisque le grec n'est pas notre langue. Alors, nous sommes tous au même niveau, le nous grec, qui est la source commune de toute notre philosophie occidentale. Alors, ce nous grec fait que nous tendons vers cette vérité. Nous y tendons le plus possible, mais nous ne l'atteignons pas toujours. Nous ne l'atteignons pas, nous sommes en tendance vers cette vérité. Il y a un appétit prodigieux. Et plus nous sommes jeunes, plus cet appétit est fort. On veut l'arriver tout de suite. Alors, quelquefois, hein, c'est vrai. Un peu trop raide. Et alors vis-à-vis de quelqu'un qui est encore rampant, voyez bien ce que ça peut faire. Hein. Celui qui est là, celui qui est là. Hein. Alors je dis, ah, pas du tout. Et donc nous cherchons la même vérité. Et si nous sommes croyants, nous sommes enveloppés du même amour et de la même vérité, cette même vérité qui s'exprime symboliquement. Parce que c'est ça le privilège de la révélation. La révélation s'exprime symboliquement parce que c'est le Verbe devenu chair. C'est le Verbe de Dieu qui d'abord s'est allié à la parole humaine, puis le Verbe de Dieu qui est devenu chair. Alors j'ai dit ça, c'est tout simplement pour que nous comprenions que les expressions sont diverses et la recherche de la vérité est une. Nous sommes un dans la recherche de la vérité. Tous ceux qui recherchent la vérité sont nos amis, dit saint Thomas. Tous ceux qui recherchent la vérité sont nos amis. Et tous ceux qui recherchent la vérité impliquent qu'on doit avoir une amitié. Mais l'amitié est différente au niveau où on se trouve, vous voyez. Cette recherche de la vérité, elle se fait diversement. Alors évidemment, on peut avoir des expressions très diverses, hein, c'est évident. Et dans les expressions très diverses, il y a des heures. C'est pas mauvais. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne s'arrête jamais à l'expression. On s'en sert, il faut bien. Vous voyez, c'est la différence entre la recherche philosophique et la logique. Le logicien s'arrête à l'expression. Il veut l'expression correcte. C'est ça la logique. Hein. Il faut, c'est pour ça que c'est l'aide. Il ne faut pas mépriser la logique. Il ne faut pas la mépriser, mais il faut comprendre que la logique n'est pas la philosophie. C'est pas la philosophie, c'est l'expression. Le logicien s'arrête à l'expression. À ce point de vue-là, c'est un artiste. La logique, c'est l'art des arts, dit saint Thomas. C'est un artiste. Ceux qui sont si intransigeants. Les logiciens sont des intransigeants, sont les artistes du logos. Alors, ils sont terriblement intransigeants, les logiciens. Il n'y a rien de plus intransigeant que les logiciens. Parce que ils veulent la précision du langage. Et vous dire tout de suite, ah, ce que vous dites, c'est pas vrai du tout. Vous restez dans un langage symbolique. Vous êtes dans un langage métaphorique, ce que vous dites. Alors, la suprême injure, c'est métaphorique, ce que vous dites. Hein, donc, ça ne vaut rien. Attention, attention. Quelquefois, on est encore dans un langage métaphorique parce qu'on n'a pas encore l'expression suffisamment précise. Alors, la lutte au niveau logique, on comprend très bien. Mais au niveau métaphysique, au niveau philosophique, dépassons toujours la logique. On s'en sert comme d'un sycomore. On s'en sert, on monte dessus. On s'en sert comme d'un outil, mais on va plus loin et on essaie de tendre vers la vérité. La vérité, c'est cette confrontation avec la réalité. La réalité qui, en définitive, est Dieu qui est res. Mais vous comprenez que le philosophe n'atteint pas tout de suite Dieu. Il atteint d'abord l'homme. C'est un haut plateau. Il atteint l'homme. Et c'est pour ça que la vérité philosophique, au fond, d'abord, elle se confronte toujours avec l'homme. Puis elle rebondit pour découvrir Dieu, pour découvrir la réalité. La foi part tout de suite de Dieu. C'est le côté très, très, très vertical de la foi. Tandis que le philosophe, il n'est pas horizontal, disons pas ça. Ne disons pas que le but de la philosophie, c'est d'être toujours horizontal. Pas très haut par rapport à la terre. Alors ça serait l'horizontal, vous voyez, ce serait l'homme qui marche à quatre pattes, hein. Pour essayer d'avancer, avancer le plus possible, mais il ne faut pas dépasser ça. Non, la philosophie demande la recherche de la vérité, donc demande de s'élever, et le plus haut qu'on peut, le plus haut qu'on peut. La philosophie, c'est le nous, c'est, il demande ça, mais c'est vrai qu'il a plus ou moins de peine. Bon, ceci c'est pour rappeler. Hein. Alors on pose la question, vous allez voir, ça va retomber ce même problème. À quel moment naît le problème posé par l'être ? Verbe infinitif. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez, nous rejoignons directement là où nous étions restés. Et je vous avais dit, il faut réfléchir beaucoup sur cette interrogation. Qu'est-ce l'être ? Ça, l'interrogation fondamentale de ma divine intelligence. Mon intelligence, comme intelligence, naît dans cette interrogation. Je crois qu'on peut dire ça. L'intelligence, comme intelligence, c'est-à-dire l'intelligence en tant que nous, pour employer le langage d'Aristote, en tant que nous séparés. C'est l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Elle naît à partir de ce moment-là. Autrement dit, cette interrogation nous fait comprendre l'appétit fondamental du nous. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Si je le pense, hein, parce que je peux le répéter sans penser, mais ça c'est permis pour les examens, mais pas pour nous. Hein. Pas pour nous quand on est seul dans la recherche de la vérité. On dit, je ne vois pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Petit à petit, vous arriverez à comprendre ce que c'est que cette interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Parce qu'il faut arriver à faire que cette interrogation prenne toute sa signification. Que ce ne soit pas quelque chose qui reste extrinsèque. Donc, qu'est-ce que c'est que l'être ? Ça exprime quelque chose de profond en nous, quelque chose de radical en nous. Qu'est-ce l'être ? Alors, je comprendrai bien. À quel moment naît le problème posé par l'être, c'est-à-dire cette interrogation ? Qu'est-ce l'être ? C'est vraiment le problème par excellence. Le problème premier, identique ou non, dans le jugement d'existence, à l'interrogation métaphysique. C'est-à-dire la signification de l'être provenant du ceci est. Le jugement d'existence. Je ne dis pas que la métaphysique et que l'intelligence, comme nous séparés, naît à partir du jugement d'existence. Non. Le jugement d'existence implique encore, normalement et en premier lieu, que le « est » relatif à ceci. C'est le concret. Ceci existe, j'existe. Vous n'êtes pas au niveau métaphysique en tant que vous existez. Heureusement pour vous. Parce que c'est heureusement pour vous. Vous êtes une réalité individuelle concrète que je peux voir, que je peux aimer. Bon, ça, ceci existe. Ceci existe. Nous avons vu comment ce jugement d'existence pouvait se poser. Ça, je crois que nous pouvons tous saisir ça. Là, ce n'est pas très difficile. C'est la condition nécessaire à toute expérience. Toute expérience interne et externe implique le jugement d'existence. Puisque quand vous faites un cauchemar, vous vous réveillez en disant « Ah, heureusement, c'est un rêve. » Et le drame qui dégringole à ce moment-là immédiatement. Tandis que si vous dites, c'est vrai, je suis dans cette situation effrayante, qu'est-ce que ça va devenir ? Ah, ça continue. Parce que le jeu, c'est pas décollé du jugement d'existence. Vous voyez comme c'est important le jugement d'existence. Il nous permet de dédramatiser. Parce que quelquefois, on reste jusqu'à midi dans son rêve éveillé. Et le cauchemar continue jusqu'à midi. Alors, dès que vous voyez la différence avec le rêve et le jugement d'existence, vous dédramatisez. Tout de suite, immédiatement. Ah ! La sueur peut continuer, c'est évident, mais vous dédramatisez. Vous avez le jugement d'existence. Et quand vous commencez à décoller, ce qui paraît évident, c'est que vous n'avez plus le jugement d'existence. Vous restez dans vos idées. Votre idée, c'est la réalité. Mais non, ce n'est pas la réalité. Et alors vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ah voilà ce que j'ai pensé. Oui, mais ce que tu as pensé, ce n'est pas ça la réalité. Regarde un petit peu, c'est ton idée. C'est très très important de saisir ce jugement d'existence. Mais ce jugement d'existence, je dirais que c'est la santé de l'intelligence. C'est la santé. Il faut la santé de l'intelligence de découvrir qu'à travers nos expériences qui nous met en contact avec le réel, il y a le jugement d'existence. Et ce jugement d'existence, c'est la santé de l'intelligence. Tant que je suis capable de saisir ce jugement d'existence, je ne décolle pas. Je suis en contact avec le réel. Très très important, ça. C'est très très important de saisir ça. Le point de départ, c'est le point de départ de ma philosophie première. C'est pas le point de départ de la philosophie. Le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience. Et là, c'est un au-delà de l'expérience. Ça, il faut bien le comprendre. C'est une méta-expérience. C'est une méta-expérience. C'est inclus dans l'expérience, mais ce n'est pas l'expérience elle-même. Vous n'avez qu'à réfléchir, vous allez acheter des choux au marché, vous ne dites pas à la marchande du marché, est-ce qu'il existe ce chou ? Si vous dites ça, vous regardez, elle dira à la copine d'à côté, et il est un peu fou. Chaque fois qu'il vient de me demander un chou, il dit, est-ce qu'il existe ce chou ? Non, 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 vous ne posez pas la question. Ou bien quand vous travaillez, vous ne vous arrêtez pas de dire, est-ce que ce bois existe sur lequel je travaille ? Est-ce que ce fer existe ? Est-ce que j'existe ? Non, non. Vous voyez, c'est très curieux comment la métaphysique peut vous mettre dans un climat assez particulier, n'est-ce pas, si vous posez cette question devant des situations qui sont des situations pratiques. C'est vrai, c'est pour ça qu'on dira que la philosophie est toujours, elle vous conduit toujours vers des choses qui sont anormales. Pas du tout, c'est tout à fait normal de se poser le genre d'exemple, mais on sait quand on le pose. Bon, ceci c'est pour vous montrer que ce jugement d'existence a quelque chose d'anormal par rapport aux pratiques.
Oui.
Et il a quelque chose de sain par rapport à ma connaissance spéculative. C'est curieux ça. Et c'est vrai, faisons l'expérience et comprenons cette expérience. C'est très important de comprendre ça. Alors je comprends comment certains philosophes disent, mettez à la porte le bon sens. C'est évident. Ça n'existe pas le marché de choux. C'est autre chose. Nous essayons de comprendre ce que c'est que ce jugement d'existence. Une fois que c'est ce jugement d'existence, je vous l'ai dit, on pourrait comprendre à partir de là l'intuition de l'unité de l'être, l'unité de ce qui est. Quand je vois la diversité de ceci, je peux dire, et c'est là où je sauve Maritain, sauvetage de Maritain. Intéressant à ce point de vue-là. Maritain parle de l'intuition de l'être, je dis l'intuition de l'unité de ce qui est dans la diversité de ce qui est. Alors là, il y a une certaine intuition. Et cette intuition est nécessaire pour faire naître, du moins nécessaire, elle est normale pour faire naître en moi l'admiration. C'est très curieux. Alors là, ce serait intéressant à voir. Hein. Je vous ai dit, il y a un problème là, très intéressant au point de vue affectif. C'est très intéressant de voir comment naît l'admiration. Je crois que l'admiration, pour être très forte, a besoin d'une intuition. Ordinairement, c'est l'intuition qui éveille en vous la plus grande admiration. Vous êtes baba, hein, devant. Oh, j'avais jamais pensé ça. C'est extraordinaire. C'est ça l'intuition. D'entrer dans un domaine nouveau que vous n'aviez pas pensé. Or, le jugement d'existence, c'est déjà un domaine nouveau par rapport à la vie pratique. Je vous l'ai dit, c'est un domaine nouveau. Eh bien, le jugement d'existence va prendre toute sa force grâce à cette intuition de l'unité de ce qui est dans la diversité des réalités. Alors là, il y a intuition. L'intuition, c'est toujours saisir un rapport. Un rapport d'unité dans la diversité. Et je saisis qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce jugement d'existence, eh bien, il traverse la plus grande des diversités. Tout ce que je vois, tout ce que je constate existe. C'est toujours l'exister et en même temps c'est chaque fois différent. C'est toujours l'exister où il y a quelque chose de commun et en même temps une très grande diversité. Alors il y a cette intuition. On l'a plus ou moins, hein, cette intuition. Et je crois qu'on peut tous l'avoir. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout simplement réfléchir à ça. L'unité. Et alors, à ce moment-là, cette intuition va éveiller en moi une admiration. Parce que ça se refait tout le temps, ça. Il ne faut pas dire, ah, moi je l'ai fait une fois, maintenant il n'y a plus d'admiration. Non, ça prouve que vous ne vivez pas votre jugement d'existence. Votre jugement d'existence, tout le temps, va susciter en vous cette espèce d'intuition plus ou moins profonde de l'unité de ce qui est dans la diversité. Et cette intuition éveille en vous l'admiration. Cette admiration qui est justement l'aspect affectif, qui met mon intelligence en état d'alerte. Et l'intuition, c'est une chose intellectuelle, l'intuition. Et alors l'intuition actue l'intelligence. L'intelligence est actuée par cette intuition. Et cette intuition me fait dépasser le jugement d'existence. Je ne dis pas que c'est dans l'intuition que se fait l'abstraction. Parce que, au niveau de l'intuition, je demeure dans l'unité dans la diversité. Or, justement, c'est l'unité dans la diversité qui est source, le contenu de cette intuition. Et cette unité dans la diversité éveille en moi une admiration, et c'est à partir de l'admiration que se fait cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et là, je suis en face de l'abstraction. L'abstraction naît dans l'interrogation. Elle ne naît pas dans l'intuition. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est l'intuition de l'être. Parce que c'est l'intuition de l'unité de ce qui est dans la diversité des existences. Ce n'est pas la même chose. Hein. L'intuition là demeure au niveau concret de la diversité, de la multiplicité et de l'unité dans cette diversité. Là je suis au niveau concret. Ceci éveille en moi l'admiration, ça peut éveiller en moi l'angoisse. Ah, alors là, c'est l'autre question très importante. Les modernes diront l'angoisse. Je comprends. Toute admiration possède en elle-même quelque chose qui peut être angoissant. C'est très vrai, au niveau affectif. Parce que dès que je suis en face de l'admiration, je suis en face de quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui va au-delà de ce que je saisis immédiatement. Alors, si je suis en face de quelque chose qui me dépasse, mais ça peut m'angoisser. C'est évident. Je ne suis pas angoissé quand je suis avec des réalités qui sont proches de moi. Des réalités que je connais déjà. Alors là, je n'ai aucune angoisse. Mais dès que je suscite un problème, comment se fait-il cette unité dans cette diversité? Ça peut être angoissant. Alors ça, ce serait très intéressant. Ça, ce serait très... C'est difficile à saisir. Pourquoi c'est l'admiration? Pourquoi c'est l'angoisse? Parce que de fait, hein, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a ces deux états affectifs extrêmes, admiration et angoisse. Comme ces deux états affectifs extrêmes, vous savez bien ce que deux contraires sont dans le même genre. Deux contraires, deux états affectifs extrêmes ont quelque chose de commun. Et c'est très vrai qu'ils ont quelque chose de commun. Ce n'est pas totalement divers. Il y a quelque chose de commun, il y a l'état affectif. L'état affectif, donc, qui est très important, parce que c'est le sujet dans son affectivité qui est ému, qui est saisi. Alors c'est intéressant parce que ça montre que les modernes, aussi bien que les anciens, montrent que si l'affectivité n'est pas là, il n'y a pas de progrès d'intelligence. Alors ça c'est capital. Là on rejoint les données des psychologues. Et on rejoint des données très importantes. C'est que s'il n'y a pas cet état affectif en éveil, ou du côté de l'angoisse, ou du côté de l'admiration, s'il n'y a pas ce côté affectif, alors évidemment, l'intelligence ne peut pas s'éveiller. L'éveil de l'intelligence se fait toujours par l'affect, l'affectivité. Une affectivité plus ou moins profonde, vous voyez, mais l'éveil de l'intelligence. Autrement, vous restez dans un ordre logique. Et vous ne progressez pas beaucoup. Vous restez dans un ordre de raison, de discussion. Pas besoin d'affectivité pour la discussion. Pas besoin. Pour secouer des opinions, pas besoin d'affectivité. Vous secouez votre magasin d'opinions. Et votre magasin d'opinions, c'est l'information. Alors ce sont vos lectures, vous lisez beaucoup, 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 beaucoup. Et vous pouvez lire énormément et avoir tout lu parmi tous les philosophes et pas être philosophe. Vous pouvez passer tous les examens. Vous êtes le fort en tête au point de vue philosophique. Vous connaissez parfaitement toutes les opinions. Vous les avez même notées dans un fichier. Et vous les avez bien organisées. Vous connaissez ça parfaitement. Mais vous n'avez absolument aucun contact avec le réel. Qu'est-ce qui va vous mettre en contact avec le réel? L'affectivité. C'est important ça, dans notre monde d'aujourd'hui, parce que nous sommes, dans notre monde occidental, terriblement cérébralisés. Et la cérébralisation, c'est justement de demeurer dans l'opinion, c'est de demeurer dans le logos, c'est de demeurer dans l'expression, c'est de demeurer dans le discours. C'est ça la cérébralisation. Et la cérébralisation, c'est la stérilisation de l'intelligence. Ça, c'est très vrai, c'est la stérilisation de l'intelligence. On va discuter indéfiniment au point de vue de l'information. On pourra avoir une information énorme, mais l'information, c'est très bien. Il faut une information, c'est bien évident qu'il faut une information. Il faut lire les philosophes, c'est sûr. Mais comme on ne peut pas tous les lire, on est bien obligé d'opter. Alors on opte. forcée. On a cette optique historique, chacun différent. C'est bien évident. Alors on peut discuter sans étant à ce niveau-là. Et on continuera de discuter indéfiniment. C'est pas ça qui éveille en nous l'admiration. Ce qui éveille en nous l'admiration, ce qui éveille en nous l'angoisse. Parce que c'est vrai, discuter avec des opinions des philosophes, ça peut être une sécurité. L'information peut être une sécurité. Je parle le langage de Heidegger. Je parle le langage de Hegel. Je parle le langage de Sartre. Je parle le langage de saint Thomas. Je parle le langage d'Aristote. C'est merveilleux. Donc je suis Aristote, donc je suis saint Thomas, donc je suis Heidegger, donc je suis... Si vous parlez le langage de ces gens-là, est-ce que vous pensez comme eux? Est-ce que vous arrivez à penser comme eux? Celui qui parle le langage de l'autre, il se drape du manteau du philosophe. Hein? C'est le sophiste. Il parle le langage de l'autre, mais il n'a pas saisi. Il n'a pas saisi ce que c'était. Donc parler le langage de l'autre, c'est important au point de vue des examens. C'est important au point de vue de l'érudition. C'est important au point de vue de l'information. Mais ce n'est pas le point de vue philosophique. Alors, parler le langage de l'autre peut très bien, vous voyez, me mettre dans une situation limite au point de vue philosophique. Parce que je suis tellement habitué du langage de tout que je n'ai plus aucun soupçon d'admiration. Je suis un petit vieux philosophe. Je me suis ratatiné avant d'être philosophe. Et je me suis ratatiné avant d'être philosophe parce que je connais trop de choses. C'est vrai, ça c'est le défaut d'une vieille civilisation. Elle connaît trop de choses. Pas comme 3000 ans de spéculation sur le dos. C'est pas commun d'avoir 3000 ans de spéculation sur le dos. Hein. Et d'arriver, moi qui n'ai maintenant, à faire que ces 3000 ans de civilisation, je les dépasse pour retrouver le contact avec le réel. Parce que je peux être englouti. Situation limite de la philosophie, l'information. Une information trop forte, une information trop grande. Alors, comprenons que l'admiration et l'angoisse, c'est peut-être ça, voyez, la naissance de l'angoisse. C'est qu'il y a 3000 ans d'information, et dont je n'arriverai jamais à m'en sortir. Ce sont des géants, Hegel. Ce sont des géants, Kant. Ce sont des géants, Descartes. C'est vrai, d'une certaine manière ce sont des géants, d'une certaine manière ce sont des génies. Ils ont dit des choses qui sont intelligentes, ce sont des géants, j'arriverai jamais à les dépasser. Alors, il vaut mieux me taire. Angoisse métaphysique, n'est-ce pas? Angoisse métaphysique, j'ai des géants devant moi, ils sont nombreux. Alors évidemment, je peux faire le saut que fait Heidegger. Merveilleux, ce sont de Heidegger. À partir de Parménide, on n'a rien dit. Effaçons tout ça notre être. C'est ce que fait Heidegger, ça. C'est ce que fait Heidegger. C'est le... Vous voyez, c'est au fond l'angoissé qui veut sauter pour redécouvrir quelque chose de primitif. L'être sauvage de Merleau-Ponty. C'est bien ça. Parce que l'information, c'est l'inverse du sauvage. Hein. Le sauvage n'est pas informé, mais le sauvage vit. Tandis que l'être informé peut très bien être terriblement angoissé. Il a un fichier parfait, mais il est angoissé. Et donc il reste à ce niveau d'information. Vous voyez, l'angoisse, elle est ennemie de cette information trop grande qui fait que j'arrive au monde trop tard. Je n'ai plus rien à lire. Tout a été dit. C'est vrai, ça, c'est très vrai. J'arrive au monde trop tard, tout a été dit. Je n'ai plus aucune originalité possible. Alors, vous voyez, petit gosse philosophique qui se met à pleurer en disant « J'ai plus rien à dire, tout a été dit. Je ne peux qu'être un succès d'année d'un philosophe. » C'est vrai d'une certaine manière. L'artiste dit ça. Pour l'artiste, c'est beaucoup plus angoissant. Je comprends très bien l'angoisse de certains artistes. Parce que c'est vrai, d'une certaine manière, tout a été dit. Alors vous dites, on est angoissé, on ne peut pas, on est obligé de se mettre à la remorque de quelqu'un, d'être dans une école. Vous savez bien quand vous faites la visite d'un musée, comme c'est fatigant les écoles. Hein. c'est fatigant, vite vous passez, ah l'école, l'école, je veux regarder tout de suite celui qui a redit quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai, c'est fatigant, regardez, 36 tableaux qui disent toujours la même chose, hein, tout le temps la même chose, la scolastique de l'école, hein, c'est ça là, c'est l'école, c'est la scolastique, ça répète indéfiniment la chose, c'est fatigant, c'est très très fatigant, alors ça angoisse, c'est évident que ça angoisse. C'est important de dire ça, parce que c'est la situation dans laquelle on est. On est dans cette situation-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, n'est-ce pas ? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et on met les pays qui ont encore un tout petit peu de sang jeune dans la dépendance de ça. Un Africain ne peut penser vraiment que s'il est à la remorque de l'Europe. Oh là là, alors, hein, c'est effrayant. Parce qu'au fond, hein, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Et nous, nous pouvons penser que si nous pensons tous ces philosophes avant, alors on comprend comment l'angoisse naît. Il faut le saisir, ça. Je crois que c'est important. Si on ne saisit pas l'angoisse du monde philosophique d'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et au fond, on ne purifie pas notre angoisse. On est tous radicalement angoissés. Ça, c'est vrai, notre monde d'aujourd'hui est angoissé. Ça a des signes, hein, alors, au point de vue chrétien, ça a des signes très particuliers, l'angoisse. Hein. C'est pas la guerre, l'angoisse est autre chose. Très particulier. Alors, c'est important de saisir l'angoisse dite métaphysique, hein, l'angoisse d'information. Je vous dis, prenez l'image, le symbolisme de la neige et de la exactement ça. Quand j'ai quatre philosophes à étudier, ça va. Mais quand j'en ai un, l'Olympe des philosophes, et puis ils se sont disputés, c'est ça qui est tragique, ils se sont disputés entre eux, et comme c'est des géants qui se disputent, lequel a raison? Alors je resterai indéfiniment comme l'âne de Buridan en face de eux, il y a l'âne de Buridan philosophique, hein. Et l'âne de Buridan philosophique, il a deux bottes de foin, il a deux philosophes qui ne se peuvent pas s'entendre, Hegel et Kant. Et alors lequel je vais prendre? Hegel ou Kant? Parménide et Héraclite? Saint Thomas et Bonaventure? Alors lequel je vais prendre? Et je resterai toute ma vie en face de deux bottes de foin. Vous voyez? L'angoisse. L'angoisse. Je comprends très bien. C'est et alors à ce moment-là, stérilisation de l'intelligence. L'intelligence se stérilise. Et alors elle aime mieux rester dans la discussion et dans le scepticisme. C'est une solution. Hein. Je crois que l'angoisse conduit à ça, le scepticisme. Sauf si alors on a une vitalité prodigieuse comme Heidegger. L'angoisse chez Heidegger nourrit la manière de conduire, mais pas chez tous. Faisons attention. Pas chez tous. J'ai vu des étudiants qui voulaient être heideggeriens et qui entraient dans l'angoisse. Et alors, eux n'avaient pas la santé de Heidegger, et alors ils restaient dans l'angoisse. Ils étaient exactement comme l'âne de Buridan, en face de deux bottes de foin, n'est-ce pas, avec tout le respect qu'on doit pour les philosophes et les théologiens, deux bottes de foin. Et il ne savait pas laquelle il devait prendre. Il ne savait pas qui prendre, qui opter comme maître. Alors il faut saisir cet état affectif, hein. Ça c'est une chose très importante. Ces deux états affectifs extrêmes, ils sont nécessaires pour le rebondissement, ils sont nécessaires, vous voyez, de façon différente, hein. L'admiration et l'angoisse. Qu'il y ait un peu d'angoisse, c'est bon. C'est bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça relativise pas mal de choses. Et puis, qu'il y ait l'admiration. Ah oui, il faut que l'admiration domine pour que, à partir de l'admiration, vous voyez, le nous dans l'admiration va permettre la naissance de l'interrogation. La naissance de l'interrogation se fait à partir de l'admiration. Parce que dans l'admiration, il y a quelque chose de connu et quelque chose qui n'est pas connu. Et c'est parce qu'il y a quelque chose de connu et quelque chose qui n'est pas connu que, de fait, l'intelligence va pouvoir regarder uniquement l'inconnu. Et quand elle ne regarde que l'inconnu, elle le met en face d'elle-même sous cette forme infinitive pour le thématiser. Je reprends. En face du ceci est, il y a quelque chose de connu, le ceci. La vache. la vache ne vous donne pas d'angoisse, sauf si elle est sacrée. Autrement, elle ne me donne pas d'angoisse. Elle ne me donne pas d'angoisse, elle ne peut pas me donner d'angoisse. Je la connais, c'est une bonne bête. Donc je la connais, elle ne me donne pas d'angoisse, ceci. La table, le ceci. Mais c'est ce petit. Et c'est ça qui me donne l'angoisse. Hein. Ce petit qui est caché derrière la vache, qui est dans la vache, il existe. La vache existe, la table existe, j'existe. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors si j'ai cette admiration ou cette angoisse que peut produire l'être, c'est vrai, c'est quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je me suis familiarisé avec la vache. Je me suis familiarisé avec les catégories. Je me suis familiarisé avec toutes les déterminations de l'être. Ça oui, c'est au même niveau que moi. C'est à ce niveau-là, les dix catégories. C'est pas fatigant, ça. C'est les dix catégories. Je me suis familiarisé avec les dix catégories. Ça, très très bien. Je montre les catégories. C'est pré-philosophique. Mais c'est très important. C'est très important. Il faut cheminer avec ces dix catégories pendant un certain temps. C'est vrai, je les retrouve dans tous les philosophes, les dix catégories. C'est merveilleux. Mais alors, tout d'un coup, je me pose la question de cet inconnu, mystérieux, présent dans les catégories, présent dans les temps, qu'est-ce que c'est que l'être? Ça naît à partir de l'admiration. Et à l'intérieur de l'admiration, une admiration tempérée par une certaine angoisse. Tous les philosophes se sont disputés sur l'être. Mais comment puis-je encore poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors je comprends très bien, vous voyez, le saut de délivrance de Heidegger. C'est beau du reste, hein, comme vitalité. Eh bien, tout ce qui a été dit depuis Parménide, c'est de la bêtise. De la bêtise, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas la vérité. C'est quelque chose, on a diminué la vérité, on est resté en face d'une métaphysique, on est resté en face de l'étang. Il faut se délivrer de tout ça et revenir à l'inspiration première. C'est beau. C'est plus poétique que philosophique. Mais c'est poétique, je comprends très bien. Le philosophe aime le poète, hein, n'oubliez pas ça. Le philosophe, c'est cette phrase d'Aristote qui est si forte, hein, le philosophe aime le poète plus que l'historien. Le philosophe aime le poète plus que l'historien, parce que l'historien risque de toujours de fournir, hein, la botte de foin de l'angoisse. Ça risque toujours, ça. Les informations, c'est tuant. Vous savez, quand on doit faire un petit travail, hein, on a tous cette petite expérience, quand on doit faire un petit travail, qu'il s'agisse d'une thèse de médecine, qu'il s'agisse d'un mémoire de licence philosophique, on commence, on a une intuition, oh c'est merveilleux, on a une petite intuition, une petite intuition, c'est suffisant. Alors on est dans l'euphorie, puis on vient parler avec un vieux ponte. Voilà, vous verrez pas comme du tout, on en a tellement parlé de ça. Allez voir, que lorsque vous fourrez dans une bibliothèque, vous ramenez 50 bouquins et vous vous mettez à lire ça. Toute votre intuition est dégringolée. Vous tombez dans l'angoisse. Et vous êtes dans une inhibition complète. Votre intuition est fichue, quand même. Complètement. Vous ne l'avez pas nourrie. Et vous êtes tombé. L'information m'angoisse. Les opinions m'angoissent. Je suis bien obligé de considérer que j'ai tant de siècles devant. Mais attention, je relativise ces opinions philosophiquement. Alors je les relativise d'une manière philosophique, d'une manière poétique. Le poète, il est là. Hein. D'une façon poétique, le poète, il a l'immense avantage, hein, c'est qu'il a l'inspiration. Le poète, dans la mesure où il a l'inspiration, il sait que son inspiration, elle est... C'est vrai. Tout poète a ça, c'est pour ça que le poète paraît toujours un orgueil fini. Je me souviens, Claudel, hein, quand on lui demandait « Qui a une influence sur vous ?» Personne. Très bien. Ça, c'est le poète. C'est le poète qui dit ça. Il a raison en tant que poète. Personne. Si un philosophe disait ça, et c'est vrai en tant que philosophe, parce qu'en tant que philosophe, c'est pas vrai. C'est là la différence, vous voyez, de la remontée de l'angoisse du poète et du philosophe. Et c'est ce que Heidegger fait, c'est qu'il le fait en poète. Alors, il a ce privilège, parce que ça c'est vrai, il faut reconnaître, il a ce privilège du poète, du philosophe poète, c'est qu'il a d'un seul trait, il dit, depuis Parménide jusqu'à nous, Toute la philosophie occidentale n'est qu'une glose marginale de Platon. Or, Platon n'a rien compris à l'être. Donc, toute la philosophie occidentale n'a rien compris à l'être. Il faut donc revenir à la première inspiration à part lui. Il y a quelque chose de juste. J'en pensais pas vrai. Mais c'est merveilleux, ça. Voyez la manière de sortir de l'angoisse. Ça prouve qu'il est très, très angoissé. Et qu'il y a en lui alors un élan extraordinaire qui l'a fait sortir de ça pour découvrir quelque chose de nouveau, l'inspiration. Je ne peux pas faire ça, moi. Je ne peux pas faire ça parce que je crois que la philosophie, la métaphysique, c'est autre chose que la poésie. Et donc, la source, ce n'est pas l'inspiration. Je me sers d'une inspiration. Le philosophe peut être poète, et peut être poète métaphysique. Mais il sait que le métaphysicien n'est pas poète et que le poète n'est pas métaphysicien. Il le sait. Vous voyez la tentation de Maritain quand il dit l'intuition poétique est plus que l'intuition métaphysique. On voit pas dire. C'est le poète qui a mangé le métaphysicien. Et quand le poète mange le métaphysicien, pauvre métaphysicien, voilà, heureux poète, mais pauvre métaphysicien, parce que de fait, il ne peut plus faire de métaphysique à partir de ce moment-là. Il faut avoir ce courage, c'est pas commode, de remonter à la source et de comprendre qu'en effet, c'est très vrai, que c'est difficile de répondre à cette interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, parce que c'est l'interrogation la plus commune à travers toute la philosophie et l'interrogation à laquelle on revient tout le temps. Alors on comprend qu'être philosophe, ce n'est pas être original. Être philosophe, c'est chercher la vérité. Tandis qu'être poète, c'est dire quelque chose de nouveau. Le poète ne peut pas répéter. Il ne serait plus poète. Il doit dire quelque chose de nouveau. C'est propre du poète, sans vouloir chercher l'originalité. Dans son inspiration, il le sait. Il en est convaincu, il le sait. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit et que je dis. Et c'est l'originalité du poète et c'est la grandeur du poète. Le philosophe ne dit pas ça du tout. Le philosophe sait que son interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, c'est l'interrogation la plus fondamentale de l'intelligence. Il n'y a rien d'original. C'est vrai, il n'y a rien d'original. Mais cette interrogation est tellement fondamentale que de fait, on l'a mal posée, on l'a mal dit. Alors vous voyez, il est là toujours. Avec son scalpel de critique. Le philosophe doit tout le temps être critique. C'est vrai, il doit être critique, c'est-à-dire il doit constamment, sur les différentes couches philosophiques, les différentes couches d'information philosophique, non, je ne peux pas m'arrêter là, parce qu'il y a ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été vu. Il y a quelque chose. Je cherche à découvrir la réalité dans ce qu'elle a de premier. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un petit exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est dans la crypte d'Auxerre, hein, de Saint-Germain-l'Auxerrois, cette crypte qui est tellement belle du 8e siècle, hein, et puis au-dessus, la petite chapelle, la petite église du 12e siècle qui était si belle. Quand vous passez par là, arrêtez-vous. Faites une pause métaphysique, là, n'est-ce pas, en visitant la crypte. Alors on voit, je ne sais pas s'il est toujours là, ce sacristain merveilleux qui, pendant l'hiver, il était avec sa paille, avec sa méthode particulière, d'enlever pour redécouvrir les nervures primitives. Il me disait, il y a des vernis qui sont insupportables, qu'on n'arrive pas à dépouiller. Le vernis du XVIIe siècle, ce vernis effrayant, moralisant et juridique, qui fait que ça colle, on n'arrive pas à découvrir la nervure primitive. Et nous disions, le vernis d'Occam, c'est un vernis encore plus fondamental que le XVIIe siècle. Le vernis d'Occam est tellement fondamental, il bloque logique et métaphysique. Eh bien, tant qu'on n'a pas dépassé ce vernis occamien, on n'entre pas dans la métaphysique. On est occamien. Très bien, on est occamien. Mais aujourd'hui, on voit la faillite d'Occam. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas. Et c'est vrai, la scolastique a continué d'exister sans voir qu'on manœuvrait un venin avec Occam. le blocage de la logique. Et ce blocage de la métaphysique et de la logique empêche de prendre conscience pleinement qu'est-ce que c'est que l'être. Parce que la logique, qu'est-ce que c'est que l'être de raison? Il n'y a pas grand-chose à ajouter en plus. Hein. De raison. Qu'est-ce que c'est que l'être de raison? L'être de raison, c'est universel. L'être réel, c'est ce qui existe dans son caractère et les femmes, ceci est. Et les deux extrêmes. L'être de raison, l'être. Eh bien, ce vernis, j'allais dire ce venin, ce vernis, parce qu'il y a des vernis qui peuvent être des venins, ce vernis occamien, il est tellement difficile à saisir, et pourtant il faut arriver à reposer la question, qu'est-ce que c'est connaître dans toute sa jeunesse, dans tout son caractère primitif. Et alors quand on se pose cette question dans son caractère primitif, l'intelligence commence à respirer. L'interrogation, c'est la respiration profonde de l'intelligence.